Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre revue de 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction.
Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Un grand merci pour votre fidélité. Samedi 3 juin, comme chaque semaine à cette heure-ci, nous allons voyager avec des escales, cette semaine aux États-Unis ou en Afghanistan. Il sera aussi question de l'actualité africaine, évidemment. Nous prendrons la direction du Mali et de la Guinée. Notre invité est Hamzat Boukhari Yabara, il est l'auteur de Africa Unit, une histoire du panafricanisme, un livre publié aux éditions La Découverte. Bonjour Hamzat Boukhari Yabara.
Bonjour.
Avez-vous reconnu l'hymne que l'on écoute
oui,
en ce moment?
Oui, l'instrumental de Africa Unite de Bob Marley, effectivement une chanson très importante dans l'histoire de l'unité africaine et un artiste qui justement a été l'une des figures de proue du panafricanisme.
Parce que c'est ce que vous expliquez, cette lutte pour l'Afrique unie, rassemblée, le panafricanisme, est passée aussi par la musique, la chanson.
C'est passé par la musique, c'est passé par les musiciens de la diaspora caribéenne, dont Bob Marley fait partie, ont été très importants dans cette idée de ramener justement les fils et les filles du continent africain vers leur terre d'origine.
Alors, en lisant votre livre qui est passionnant, Hamzat Boukhari Yabara, on s'aperçoit que le panafricanisme n'est pas vraiment une idée neuve.
Pas du tout, c'est effectivement une idée qui est née à la fin du 18e siècle, début du 19e siècle, au moment de la révolution de Haïti, qui est née en 1804 en tant que première république noire et qui a été en fait portée par des Africains qui se sont libérés de l'esclavage. Donc on est dans cette période des grandes révolutions et qui par la suite ont tenté d'une part de revenir sur le continent africain, donc ça a été l'expérience assez malheureuse du Libéria, également de l'Éthiopie, et qui donc tout au long du 20e siècle ont décidé de lier leur combat à la lutte contre la domination coloniale sur le continent africain, tant et si bien que après la Seconde Guerre mondiale, les deux principaux penseurs du panafricanisme qui étaient Marcus Garvey et William Dubois vont trouver en la personne de Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, une synthèse qui va aboutir à une série de conférences dont l'une des plus importantes sera la conférence d'Addis Abeba du 25 mai 63 où l'organisation de l'unité africaine est créée contre le projet de Nkrumah des États-Unis d'Afrique. Donc toute cette histoire politique, culturelle, sociale, économique, elle a plus de deux siècles d'existence et se poursuit aujourd'hui en dépit d'énormes vicissitudes, des tentatives de sécession, des crises, des conflits, etc., mais qui n'entament pas pour autant justement cette volonté d'unifier politiquement le continent africain.
Alors Hamzat Boukhari Yabara, dans un instant nous partirons pour les États-Unis et l'Afghanistan, mais commençons notre voyage en Afrique justement et évoquons le 50e anniversaire de la déclaration d'indépendance du Biafra qui a déclenché, on le sait, une violente guerre civile de 1967 à 1970. Magasins, écoles et bureaux sont restés fermés mardi dans le sud-est du Nigeria en mémoire justement de la déclaration de sécession de ce territoire. Un rappel historique s'impose. Binta Diagne.
Tout est parti d'Enugu. Les communautés Igbo réunies au sein du Conseil consultatif de l'Est expriment leur frustration sur la nouvelle structure de l'État fédéral qui les prive de leurs ressources pétrolières. Le 30 mai 1967, le lieutenant-colonel Emeka Odjukwu proclame l'indépendance de la région et la naissance de la République du Biafra. Enugu en est sa capitale. Lagos déclare immédiatement l'état d'urgence. Le sud-est du pays s'enfonce alors dans une guerre civile. L'État fédéral impose un blocus sur cette région séparatiste, provoquant la famine. Les aspirations séparatistes sont étouffées au bout de 3 années par l'armée fédérale, mieux équipée que les indépendantistes. Mais le sentiment d'injustice semble s'être transmis d'une génération à l'autre. Manque d'infrastructures, mauvaise répartition des recettes liées au pétrole, faible représentation dans les postes gouvernementaux, certaines communautés Igbo s'estiment toujours lésées. La radio Biafra à Londres et deux organisations locales canalisent cette colère. Mais le sujet reste tabou et durement réprimé par l'État fédéral. L'année dernière, par exemple, plus de 150 personnes ont été arrêtées lors des célébrations de cet événement.
Alors allons cette fois au Nigeria, au Biafra d'aujourd'hui, avec l'envoyé spécial de RFI, Moïse Gomis, à Enugu précisément, où les militants du Mobi, c'est-à-dire le mouvement pour les Biafrais au sein du Nigeria, ont du mal, semble-t-il, à se faire entendre, et où le souvenir de la guerre est encore vivace, l'esprit Biafra semble encore là.
Idje s'est construite en s'affranchissant des blessures jamais guéries et surtout non verbalisées dans sa famille.
Le Biafra est davantage un esprit, celui d'un Igbo qui souhaite se voir donner une chance comme tout le monde, de pouvoir être candidat, d'avoir la parole. C'est aussi un vœu pour un traitement plus juste en faveur de ce coin du pays. C'est tellement vrai. Même un petit enfant se rend bien compte que quelque chose ne va pas bien au Nigeria.
Idje est né dans les années 80. Alors c'est grâce à des livres qu'elle a pu étancher sa soif de connaître le passé récent de son peuple.
Certains récits prétendent que la guerre a été provoquée par les Igbo. D'autres indiquent que ce n'était pas un conflit Igbo. D'autres encore évoquent une sorte de génocide. C'est pour cela que j'ai besoin de lire des choses avec un point de vue venant des Haoussa, mais aussi des histoires avec une perspective Yoruba et également une vision d'auteur Igbo.
La résurgence des revendications pro-biafraises et contemporaines interpelle Idje. En l'état, elle estime que la société Igbo est bloquée.
Nous devons nous tourner vers l'histoire pour savoir qui nous sommes, nous les Igbo, sur quel chemin nous allons, que nous est-il arrivé, que se passe-t-il en ce moment, et demain, quel sera notre futur.
Idje pose la main sur son ventre arrondi, un geste d'une mère à son bébé à l'intérieur, comme une promesse de bien transmettre des clés de compréhension à son enfant à venir.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Amzat Boukhari Yabara pour son livre sur le panafricanisme. J'ajoute que vous avez écrit aussi un livre sur le Nigeria, publié aux éditions de Buck il y a quelque temps. Alors, l'historien que vous êtes a un regard particulier sur cette question du Biafra, qui a été une guerre civile très dure à l'époque. Hein.
Oui, ça a été une guerre civile très dure, bon, éclipsée dans un premier temps par la guerre du Vietnam et la crise du Congo, mais qui prend sa source effectivement dans une série de coups d'État qui ont lieu dès 1966 avec les généraux Irontsi puis Yakubu Gowon qui vont entraîner des pogroms contre les Igbo qui étaient dans le nord du Nigeria, qui vont fuir ce nord du Nigeria et se réfugier dans la région du sud-est où ils sont majoritaires. Les Igbo, c'est la troisième grande ethnie hein, du Nigeria. Ils représentent un peu moins de 20% de la population, derrière les Yoruba et les Haoussa qui sont majoritaires. Et le Nigeria va voir à ce moment-là entrer sur la scène politique les militaires. Et les militaires vont rester au pouvoir pendant très longtemps. Et c'est dans ce contexte-là de durcissement de la vie politique et d'inégalité de plus en plus forte que Yakubu Gowon va faire passer la structure de l'État de trois États fédérés à 12 États fédérés. Et les Igbo, qui dans le sud-est sont assis sur la manne pétrolière, vont justement contester le fait que ce découpage les privait justement du contrôle de leurs ressources. Donc ça va entraîner effectivement une volonté sécessionniste, en sachant qu'on est dans un espace où la population est très cultivée, est très liée aux activités commerciales, où on a aussi les multinationales pétrolières qui sont présentes. Donc tout ça en fait va très vite dégénérer. Et trois jours après cette décision de passer à 12 États fédérés, il y aura donc la proclamation de l'indépendance du Biafra, qui va entraîner le jeune État nigérian dans une terrible guerre civile avec des conséquences humanitaires catastrophiques, puisque tous les Igbo du Nord vont également migrer. Donc on aura une problématique des réfugiés qui va être intense. Et tout ça aussi va être aggravé par l'ingérence des différentes puissances. On est dans une période où on est sur l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et le président du Dahomey voisin à l'époque disait, Émile Derlin-Zinsou, disait que chaque État africain à son Biafra. Par conséquent, la nécessité pour l'État nigérian de maintenir la cohésion territoriale était appuyée par l'Organisation de l'Unité africaine, en dépit de la position dissidente de quelques pays comme la Côte d'Ivoire d'Oufouet-Boigny, qui a très largement aidé les rebelles, la Tanzanie et la Zambie pour d'autres motifs, et enfin effectivement la France, qui avait aussi des intérêts stratégiques à voir le Nigeria éclater à ce moment-là.
Alors nous allons reparler dans la deuxième partie de l'émission de l'actualité africaine, évidemment, Amzat Boukhari Yabara, mais vous avez vu, cet esprit est toujours là, on n'a pas oublié, certains n'ont pas oublié.
Parce que la problématique des inégalités est toujours présente au niveau du État du Niger. On a une région qui est extrêmement riche, mais cette richesse ne profite pas à la population. Dans les années 90-2000, on avait eu d'autres mouvements, le Massob ou même le Maine plus au niveau du delta du Niger, qui réclamait justement à l'État fédéral d'assumer son rôle de redistribution des ressources. Donc toute cette problématique depuis 50 ans du Biafra renvoie en fait à la nécessité de repenser les questions de centralisation et de fédéralisme au niveau du Nigeria et de faire en sorte que les populations soient associées justement à la gestion de leurs ressources. Donc c'est un enjeu de développement durable, comme on peut dire.
Sept jours dans le monde.
Alors, dans ce retour sur l'actualité de la semaine, il nous faut évidemment revenir maintenant sur la décision de Donald Trump de sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Colère parmi les 194 autres signataires et colère aussi chez les Américains qui ne partagent pas tous, loin s'en faut, les idées de leur président. Correspondance jeudi de Grégoire Portier.
Ce jeudi, c'était les réactions atterrées par la décision de Donald Trump que l'on entendait le plus aux États-Unis. L'annonce n'était pas une surprise et les communiqués préparés à l'avance ont été diffusés dès la fin du discours. Al Gore, l'ancien vice-président, aujourd'hui très engagé pour l'environnement, regrette ainsi que Trump n'assume pas son rôle de leader mondial, mais se dit persuadé que le peuple américain, lui, l'assumera. Et en effet, le maire de Pittsburgh, ville industrielle que Trump a opposée à Paris pour justifier sa décision, a immédiatement annoncé qu'il continuerait malgré tout de suivre les engagements contenus dans l'accord sur le climat. De même, le maire de New York a déjà indiqué qu'il prendrait aussi bientôt un décret en ce sens. Le choix du président américain va aussi avoir des conséquences pour son entourage. L'ambitieux milliardaire Elon Musk, féru de nouvelles technologies, a mis sa menace à exécution et immédiatement quitté le Conseil économique de la Maison-Blanche. Au niveau diplomatique, l'ONU a fait part de son immense déception, mais surtout, la France, l'Allemagne et l'Italie ont sans tarder et communément assuré que l'accord de Paris n'était pas renégociable, contrairement à ce que souhaiterait Donald Trump. Enfin, l'ancien président Barack Obama, qui avait signé le texte l'an passé, ne cachait pas sa frustration. Pour lui, l'administration américaine rejoint une poignée de nations qui rejettent le futur.
Et vous avez été très nombreux à réagir à cette décision de Donald Trump sur notre page Facebook, une semaine d'actu, en la condamnant la plupart du temps. Direction Kaboul, victime mercredi matin d'un attentat particulièrement meurtrier, le pire attentat depuis 2001. Au moins 90 personnes ont péri et 320 autres ont été blessées. Dans l'attentat à la bombe qui a secoué tôt mercredi le quartier diplomatique de Kaboul, la capitale, selon un bilan du ministère de l'Intérieur qui n'est pas tout à fait définitif encore, correspondant ce jour-là de Sonia Ghezali.
La panique dans les rues du centre de Kaboul. Des visages hagards. Cette femme paniquée qui n'arrive plus à se servir de son téléphone. Elle tente de joindre son fils qui travaille près de l'ambassade d'Allemagne. C'est là qu'une voiture a explosé à 8h30 heure locale ce matin, à quelques pas de l'ambassade de France. Une explosion si forte qu'elle a été ressentie jusqu'à plus de 2 km à la ronde. Dans les quartiers de Wazir Akbaran et Sharena, où toutes les vitres ont explosé, les rues sont jonchées de débris de verre et de bois que les commerçants et les particuliers balaient, l'air absent, alors qu'au milieu de la route, des personnes au visage et aux mains ensanglantées marchent d'un pas peu assuré. Les sirènes, elles, ne cessent de retentir durant plus d'une heure, amenant les blessés à l'hôpital Emergency, devant lequel s'est attroupée une centaine de personnes. L'attentat intervient quelques semaines après le lancement de l'offensive de printemps par les talibans, qui ont prévenu qu'ils s'en prendraient aux forces gouvernementales et aux forces étrangères.
À suivre aussi dans nos journaux, la situation aux Philippines, bien sûr. Enfin, revenons sur le premier entretien d'Emmanuel Macron, le président français, avec Vladimir Poutine. En France, c'était lundi, à Versailles, s'il vous plaît, Anastasia Becchio.
Ça a été un échange extrêmement franc, direct. Nous nous sommes, je crois, tout dit, on partage des désaccords, mais au moins, on les a partagés. Voilà comment Emmanuel Macron a résumé la rencontre. Tout comme son hôte, le président français a affirmé qu'il entendait approfondir les relations bilatérales et travailler à construire des actions communes. Sur le dossier syrien, Emmanuel Macron a tracé sa ligne rouge. Toute utilisation d'armes chimiques par qui que ce soit fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate de la part des Français. Vladimir Poutine lui a souligné qu'il n'était pas possible de lutter contre le terrorisme en détruisant l'État syrien. Sur l'Ukraine, Emmanuel Macron a annoncé une réunion au format de Normandie dans les jours ou les semaines qui viennent. Beaucoup de sujets évoqués donc, et notamment le sort des ONG ou des homosexuels en Russie, comme l'a précisé le président français à côté d'un Vladimir Poutine impassible. À l'issue de la conférence de presse, les deux hommes ont visité ensemble l'exposition Pierre le Grand, un tsar en France. Puis Vladimir Poutine s'est rendu avec sa délégation Quai Branly dans la nouvelle cathédrale orthodoxe russe au bulbe doré, ouverte en octobre dernier. À l'époque, le président russe avait dû renoncer à venir à son inauguration sur fond de crise à propos de la Syrie.
Vous écoutez RFI, une semaine d'actualité. Nous sommes toujours en compagnie d'Amzat Boukhari Yabara. Nous allons continuer notre voyage en Afrique dans la deuxième partie de l'émission. Mais je suis sûr que vous voulez réagir à cette décision qui a secoué le monde, on peut le dire, comme ça, jeudi soir, le désengagement américain de l'accord de Paris.
Oui, alors effectivement, c'était tout à fait prévisible, mais je crois que le ton et les motivations utilisées par Donald Trump sont assez révélatrices du fait que les négociations sur le changement climatique sont en fait des négociations sur le système économique. économique et financier qui prend en otage ou en prétexte le climat. Donald Trump a bien pointé le fait que c'était des accords qui desservaient les intérêts économiques et financiers américains. Donc il faut réellement que l'on réfléchisse sur un autre système à mettre en place à ce niveau-là. Ensuite, je pense qu'effectivement, ce sera très compliqué puisque là, les États-Unis se trouvent un peu seuls contre tous, mais dans l'histoire des relations internationales, ça a été quasiment impossible d'user de coercition par rapport au pouvoir américain. Donc là, il faudra voir comment les dirigeants du reste du monde, entre guillemets, vont se comporter pour gérer cette crise qui va avoir effectivement un certain nombre de conséquences. Du point de vue des États africains aussi, je pense qu'il faudra réfléchir à comment repenser cette question du climat, cette question des négociations qui va peut-être prendre une tournure peut-être plus bilatérale. En tout cas, c'est, je pense, un nouveau chantier qui s'ouvre et qui met probablement à terre beaucoup d'autres efforts qui ont été produits jusque-là, qui n'étaient pas forcément toujours les plus intéressants, les plus pertinents.
Alors ce qui est notable, c'est que certaines grandes entreprises, grosses entreprises américaines, hostiles à cette décision de Trump. Hein.
Effectivement, ça aussi c'est un élément assez intéressant de voir que même dans ce qui peut apparaître comme étant son camp, il est très contesté. Maintenant, reste à savoir dans quelle mesure les Américains, qui ont quand même une grosse part dans l'émission de gaz à effet de serre, vont maintenant se positionner en sachant qu'il lie vraiment cette position aux avantages qui seraient concédés à l'Inde, à la Chine ou à d'autres pays pollueurs et qui ne voit pas du tout en fait la catastrophe climatique qui intervient dans un certain nombre de pays du Sud dont ils ne se sentent pas redevables.
Et je vous ai vu sourire en écoutant le reportage d'Anastasia Becchio sur la visite de Vladimir Poutine à Versailles.
Oui, parce qu'effectivement c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Poutine disait qu'il avait vu passer déjà un certain nombre de présidents français et américain depuis qu'il est au pouvoir. Et je crois qu'il est venu aussi pour tester un peu la personnalité d'Emmanuel Macron. On sait qu'il y avait eu pas mal de tensions déjà durant la période électorale. Maintenant, je crois qu'aussi qu'un rapport de force avec la Russie ne serait peut-être pas la chose la plus pertinente. Je pense qu'il faut qu'il y ait un temps d'observation, que chacun puisse effectivement exprimer ses positions. Et puis les choses vont probablement se décanter par la suite. Emmanuel Macron doit asseoir son pouvoir et Vladimir Poutine fait partie des grands dirigeants du monde actuel et donc d'une certaine manière c'était une rencontre assez intéressante à observer.
La Russie qui d'ailleurs avec la Chine a précisé il y a quelques heures qu'elle restait elle dans l'accord de Paris. Je reviens à cet accord de Paris. Hamzat Boukhari Yabara, l'unité africaine est un impératif de survie, ce n'est pas une option, c'est ce que nous dit un de nos auditeurs qui s'appelle Kobo Maurice à Ouagadougou. C'est aussi votre avis ?
Oui, c'est tout à fait mon avis, c'est-à-dire qu'aucun État africain...
Ce n'est pas une option, c'est un impératif de survie.
C'est un impératif de survie, c'est-à-dire qu'aucun État africain seul ne peut s'en sortir par rapport aux territoires dans lesquels ils évoluent. Ensuite, on a un certain nombre de problématiques qui sont transnationales. Tout ce qui est lié, par exemple, aux problématiques climatiques, environnementales, c'est transnational. Le delta du Niger, le Sahel, tous ces enjeux-là sont des enjeux climatiques qui dépassent la logique des frontières.
Parce que Maurice ajoute aussi dans son message, il faut se débarrasser des considérations sectaires, tribalistes et régionaliste.
Aussi, effectivement, c'est un des grands défis qui ne peut être, je pense, que corrigé par l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire du panafricanisme, c'est une histoire qui est globale et qui montre aussi les circulations à l'intérieur du continent, qui montre que ces circulations ont toujours été présentes et qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui d'ossifier les États dans des modèles d'État-nation qui ne fonctionnent plus. Le cas du Mali, on est un exemple, par exemple. On voit bien que cet État est en train de s'écrouler. D'autres territoires aussi, comme la Centrafrique, la Somalie, montrent aussi qu'on a des héritages qu'on a voulu maintenir, mais qui n'ont plus lieu d'être maintenus. Donc aujourd'hui, il faut être capable de repenser une Afrique différente du point de vue de ses interactions et surtout de ses circulations internes et de son rapport avec le reste du monde via l'apport décisif de la diaspora qui fait justement la spécificité du panafricanisme.
Et Kobo Maurice ajoute dans son message que pour arriver à cet état d'esprit, il faut que l'éducation de base l'intègre, il faut que la jeunesse se l'approprie. J'imagine que vous êtes d'accord aussi avec ça.
Oui, l'éducation, c'est un enjeu de souveraineté continentale, on peut dire. Donc il faut qu'on ait une jeunesse de plus en plus éduquée, surtout qu'elle est en train d'être de plus en plus importante sur le continent africain. Donc travailler la jeunesse.
Hamzat Boukhari Yabara, nous allons faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde et on se retrouve dans quelques 3 minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve, nous, pour revivre 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction et notre invité, l'historien Hamzat Boukhari Yabara, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme, un livre publié aux éditions La Découverte. African, African, African.
semaine d'actualité.
Et grâce à Vanessa Rowensky, nous sommes dans le ton. On va passer à un autre message d'auditeur. Les messages sont nombreux ce matin de Sougou Bokor qui nous écrit ceci. Bonjour à vous, l'unité africaine n'est pas possible et ne sera pas possible tant que le cordon ombilical France-Afrique ne sera pas coupé.
Oui, je crois que c'est une évidence par rapport aux différents accords monétaires avec le franc CFA, militaires avec la dépendance des pays francophones à l'armée française, également culturelle ou autre, c'est-à-dire qu'il y a besoin, je pense, pour les États africains d'assumer leur indépendance et que ce n'est que possible à travers justement des dirigeants en capacité eh bien, de donner une vision à leur pays, d'inspirer justement un sentiment de progrès social à leur population et surtout de donner l'exemple. On a besoin d'avoir des dirigeants exemplaires, on a besoin d'avoir des dirigeants visionnaires et très souvent le rattachement à la France est une facilité qui ne nous permet pas d'avancer. Donc je pense qu'effectivement l'unité africaine qui passe aussi par d'autres problématiques qui ne concernent pas que les États anciennement colonies françaises doit passer par une capacité à rompre avec le cordon ombilical avec la France ou avec d'autres tutelles de type financière ou militaire.
Alors avant de repartir en Afrique, restons un instant en France, Hamzat Boukhari Yabara, et reparlons de Richard Ferrand, ministre de la cohésion des territoires, de plus en plus seul après les révélations du Canard enchaîné sur ses transactions immobilières. L'hebdomadaire en a publié de nouvelles mercredi, Franck Alexandre.
En janvier 2011, Richard Ferrand et son conseil d'administration se réunissent pour choisir un site censé accueillir un nouveau centre de soins à Brest. Dans un premier temps, le directeur agit seul, il trouve un local et signe un compromis de vente en son nom propre. Mais une clause prévoit déjà l'entourloupe, indique le Canard enchaîné. La vente ne sera effective que si les mutuelles signent un bail avec une société civile immobilière se substituant à lui. Deuxièmement, le directeur propose l'affaire à son conseil d'administration sans préciser qu'il s'est lui-même porté acquéreur. Enfin, Sandrine Doucan, la compagne, entre en scène, écrit le Canard enchaîné. Elle crée une SCI qui récupère le compromis de vente, prend la place de Richard Ferrand et achète à sa place. Il ne reste plus à la nouvelle propriétaire qu'à signer le bail avec les mutuelles, ce qui lui assure un gain d'un demi-million d'euros en 15 ans puisque les loyers en encaissés vont couvrir le prêt intégral accordé par sa banque. Une bonne affaire et dont l'architecte n'est autre que Richard Ferrand et l'hebdomadaire satirique de s'interroger. Mais pourquoi donc n'a-t-il pas proposé de réaliser cette bonne opération au profit des mutuelles dont il avait la charge ?
Alors le parquet a ouvert une information judiciaire jeudi, le jour même où François Bayrou, le nouveau ministre de la Justice, présentait les grandes lignes de la future loi de moralisation de la vie politique. Stéphane Lagarde.
Vie parlementaire, réforme institutionnelle et financement des partis, restaurer la confiance des citoyens dans la vie publique est un projet ambitieux. Pas moins de 3 textes seront nécessaires, a expliqué François Bayrou, une loi ordinaire et une loi organique qui seront soumis aux parlementaires dès cet été et une loi constitutionnelle à la rentrée. 3 semaines après son entrée en fonction, le nouveau gouvernement entend aller vite et prendre des mesures qui se voient. Parmi ces dernières, la proposition d'en finir avec une juridiction d'exception en supprimant la Cour de justice de la République. Si la loi est adoptée, les membres du gouvernement et les parlementaires seront jugés par des magistrats comme n'importe quel citoyen. Comme les ministres, les députés n'auront plus le droit de recruter des membres de leur famille. Interdiction également de cumuler plus de 3 mandats successifs et identiques. Et enfin, une peine d'inéligibilité de 10 ans en cas de fraude ou de corruption. François Bayrou, qui promet aussi une refonte du financement de la vie politique, a refusé de s'exprimer sur les affaires en cours, brandissant son livre rouge, l'article 30 du Code pénal qui, dit-il, lui intime le droit de réserve.
Les élections législatives maintenant, premier tour le 11 juin, le second le 18. Les candidats sont en campagne dans les 577 circonscriptions de France. Parmi eux, des jeunes de 18 à 25 ans, essentiellement des étudiants, regroupés dans le parti Allons Enfants, qui présente 60 candidats dans 12 départements. Leur but, renouveler la politique. Reportage à Paris de la toute jeune, elle aussi, Élise Dangean.
Si l'on vous dit au détour d'une conversation politique les mots transpartisan, jeune ou encore renouvellement, vous penserez très certainement à Emmanuel Macron. Pourtant, il n'est pas le seul à en faire sa marque de fabrique marketing et politique. Dès 2014, Allons Enfants avait pris le parti de la jeunesse et voulait déjà casser les codes. Aujourd'hui, la ressemblance entre le grand et le petit parti interpelle, tant sur la rhétorique que sur le programme européen et libéral. Mais pour Sophie Caillot, candidate d'Allons Enfants dans la 14e circonscription de Paris, pas d'amalgame.
Souvent on nous dit « Ah mais en fait vous êtes comme Macron ». C'est plutôt Macron qui est comme nous en fait. Mais dans notre programme, on a quand même pas mal de points qui se différencient du programme de Macron, notamment sur le développement durable, alors que le programme écologique de Macron est quasiment inexistant.
Damien Busson, candidat dans la 3e circonscription de Paris, était indépendant avant de prendre l'étiquette « Allons enfants ». Pour lui, la dynamique autour d'Emmanuel Macron est positive, mais pas suffisante.
C'est vrai qu'il cannibalise un petit peu l'idée aujourd'hui de transpartisan et ça marche très bien, donc nous on est très contents de ça. Maintenant nous, on tient à ce qu'il y ait des députés qui soient parfaitement indépendants, qui plus est jeunes. Aujourd'hui les 25 ans, c'est 14% de la population française, il n'y en a aucun à l'Assemblée nationale. Le but du jeu, c'est évidemment pas de remplacer tous les vieux et mettre des jeunes, ça n'a aucun intérêt.
Autre point commun entre La République En Marche et Allons Enfants, l'esprit entrepreneurial.
Je vois ça un peu comme monter une entreprise, sauf que nous ce qu'on aime faire, c'est de la politique.
C'est clairement un parti, mais qui fonctionne sur le mode start-up, dans le sens où on n'a pas de hiérarchie superflue et c'est très horizontal, très participatif.
Jean basket et puis on se retrouve autour d'une bière et puis on discute de politique.
Le tout pour donner une voix à la jeunesse alors que l'Assemblée nationale n'est plus qu'une maison de retraite à leurs yeux. Et ça, c'est bel et bien leur projet.
Macron nous a tout copié. On était transpartisans avant lui. On était jeunes avant lui. On était innovants avant lui. Alors laissez-moi lui péter une seule chose ce soir. Allons enfants, c'est notre projet.
Et vivent les jeunes, hein, c'est ce qu'on peut dire, Hamzat Boukhari Yamara, c'est dans l'air du temps.
Oui, je crois que la loi sur la fin du cumul des mandats est très importante parce que c'est vraiment cette loi-là qui ouvre un peu de l'espace politique. Mais on voit bien que cette 5e République, elle est quand même très dure à réformer, elle est très dure à faire avancer. C'est une République qui a été taillée par le général de Gaulle. Le général de Gaulle, dans un contexte bien particulier, la décolonisation, les indépendances, la guerre d'Algérie. Et je ne suis pas certain que Macron va réellement réussir à faire bouger les lignes. Il faudrait vraiment qu'on passe à une autre forme de république et espérons justement que cette jeunesse pourra donner l'énergie suffisante pour faire avancer les choses.
Alors Africa Unite, c'est le titre de votre livre, l'histoire du panafricanisme. J'ai oublié de dire que c'est la version de poche d'un livre publié il y a trois ans.
Il y a deux ans, effectivement.
Je voudrais que l'on essaie de trouver une définition du panafricanisme parce que on y met en fait ce que l'on veut dans ce mot panafricanisme, unité ou pas. Est-ce que ça concerne uniquement l'Afrique? Est-ce que ça concerne uniquement les habitants du continent? Quelle est la définition de l'historien que vous êtes?
Le panafricanisme est né dans la diaspora. Il est né dans la Caraïbe, principalement en Haïti au départ.
Donc très important de préciser ça, oui.
Voilà,
oui.
C'est un mouvement qui est venu de l'extérieur du continent africain, mais porté par des Africains qui avaient été sortis de leur continent d'origine dans le cadre de la traite et de l'esclavage. Et donc ces Africains qui étaient exilés ont voulu justement se réapproprier leur identité, donc la notion d'identité est fondamentale, et comme ils n'arrivaient pas à savoir d'où ils venaient précisément sur le continent africain, et bien ils ont commencé à concevoir tout au long du 19e siècle l'Afrique comme une globalité, en utilisant les termes d'Éthiopie, de Congo, de Guinée, de Niger, de ces grands ensembles-là, qui donnaient une vision globale du continent africain. Par la suite, au moment où l'Afrique, donc leur terre d'origine, tombe sous la domination coloniale et où eux, ceux de la diaspora, deviennent libres du fait de l'abolition de l'esclavage, eh bien, ils vont constater que leur terre d'origine est soumise à une autre forme de domination. Donc, ils vont se rapprocher des militants africains anticolonialistes et tout ça, en fait, va fusionner dans un mouvement qui va naître officiellement en 1900 lors d'une conférence à Londres, la conférence panafricaine de Londres, effectivement, ouais. Qui va ensuite donner lieu à une série de rencontres, de sommets, tout le temps organisés par des intellectuels, des artistes, des étudiants, des travailleurs, de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui la société civile, une série de rencontres dans lesquelles à chaque fois, eh bien, on va émettre un certain nombre de doléances par rapport à la situation en Afrique du Sud, au Congo, dans les Antilles, etc. De telle sorte que l'on met en place une sorte de mémorandum d'état des lieux des mondes africains et afro-descendants, même si cette expression est un peu particulière. Et lorsqu'en 1945, on a la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'on voit le nouveau monde qui se met en place autour des Nations Unies avec les deux grands blocs, l'Est et l'Ouest, se pose aussi la question du positionnement de l'Afrique qui va connaître donc cette vague de décolonisation. Et donc la position d'un de ses dirigeants, Kwame Nkrumah, va être d'expliquer qu'il faut que, à partir de cette longue histoire d'intérêt et de solidarité autour du continent africain, qui va donc depuis l'Afrique du Nord, bien évidemment, jusqu'à l'Afrique du Sud, à libérer à l'époque de l'apartheid, eh bien il fallait que l'on utilise cet élément de solidarité historique pour mettre en place ce qu'il appelait les États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire une sorte d'État fédéral, de gouvernement continental, qui s'occuperait des questions de souveraineté, donc la monnaie, la diplomatie, la défense, à l'échelle continentale, et qui laisserait en fait ensuite chacun des États créés par la suite s'occuper des questions subsidiaires. Donc c'est ce modèle du fédéralisme qui va être mis en place à cette époque-là et qui sera défendu par Kwame Nkrumah lors de la conférence d'Addis Abeba.
Personnage extrêmement important,
hein, très important.
Le fondateur du Ghana.
Le fondateur du Ghana actuel, et qui fête cette année ses 60 ans et que nous célébrerons au mois d'août à Accra. Et ce projet va être en fait mis en échec par les autres dirigeants, notamment les dirigeants francophones, puisque la France avait deux blocs, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale française, qui ont été balkanisés, c'est-à-dire que ces deux blocs ont été éclatés en un certain nombre d'États qui assuraient à la France un certain nombre de voix aux Nations Unies et dans les différentes institutions internationales. Et tout ce poids politique a pesé contre Nkrumah et a mis en échec justement son projet des États-Unis d'Afrique pour mettre en place l'OUA. L'OUA qui a eu énormément de lacunes, qui a mis en place le dogme de l'intangibilité des frontières, de la non-ingérence, un certain nombre de points qui n'ont pas permis justement aux populations et aux États africains de se cristalliser dans quelque chose d'un peu plus large que ce qu'ils sont aujourd'hui et qui leur aurait permis, je pense, de mieux encaisser à la fois les coûts de la mondialisation, mais également les conflits internes. Je pense que la notion de circulation, elle est fondamentale dans le panafricanisme.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Je salue par exemple Oumar qui nous écoute fidèlement à Yaoundé. Je salue également un autre Oumar, mais cette fois à N'Djamena, à Madi à Conakry. Bonjour à Doum à Khartoum, à Abdoul Kader à Niamey et à Moussa à Nice.
Une semaine d'actualité.
Partons pour l'Afrique, donc maintenant, Hamzat Boukhari Yabara, avec la publication de deux enquêtes différentes qui montrent que la transparence est de rigueur désormais, en tout cas, elle progresse, soyons optimistes. La première a été publiée mercredi par une association américaine qui lutte pour la fin des conflits en Afrique, vaste programme. Elle met en lumière les pratiques douteuses d'un général de l'armée sud-soudanaise. C'est une illustration, selon le collectif The Sentry, de l'intérêt que peuvent avoir certains officiels sud-soudanais à prolonger la guerre à leur profit. Laurent Martel.
D'après l'enquête, plus de 3 millions de dollars ont transité sur le compte personnel du général Ruben Riak au Kenya entre janvier 2012 et début 2016, dont 700 000 dollars provenant d'entreprises de construction ou d'extraction étrangères. Exemple avec la société minière China Wuyi qui s'est confiée au collectif. Pour acheter les explosifs nécessaires à son activité, il lui fallait une autorisation du corps d'ingénieurs de l'armée sud-soudanaise. Et c'est l'armée qui l'a renvoyé vers MAC International, une entreprise présentée comme seule habilitée à vendre des explosifs et contrôlés justement par le général Ruben Riak, selon The Sentry. Sur les 8 paiements effectués par China Wuyi, 6 chèques sont allés sur le compte personnel du général pour un total de 116 000 dollars et seuls 13 500 dollars ont été versés en liquide à MAC International. Conflit d'intérêts, simple manque de transparence. Pour The Sentry, ces transactions douteuses montrent en tout cas pourquoi certains militaires peuvent avoir intérêt à tout faire, y compris alimenter le conflit, pour rester au pouvoir. Le collectif s'intéresse aussi à des entreprises minières qui seraient codétenues par le général ou sa famille et des élites politiques du Kenya, d'Éthiopie et d'Ouganda et s'interroge par conséquent sur la crédibilité de l'implication de ces pays dans les efforts diplomatiques pour amener la paix au Soudan du Sud.
Autre enquête menée cette fois par deux journaux maliens, elle concerne la conférence épiscopale malienne et particulièrement le cardinal du Mali, Jean Zerbo. Explication à Bamako d'Anthony Fouchard, jeudi.
7 milliards de francs CFA, soit près de 12 millions d'euros, hébergés en Suisse de 2002 à 2007 sur plusieurs comptes en banque, notamment un au nom de Jean Zerbo, le futur cardinal. C'est la principale révélation d'une enquête de deux journaux d'information maliens. Un scandale qui bouleverse la conférence épiscopale du Mali, la CEM, qui pour l'instant nie en bloc toute idée de fraude massive. Jean-Gabriel Diarra était président de la CEM au moment des faits. Il est aussi visé par les allégations de détournement de fonds. Écoutez-le.
Nous ne sommes pas parfaits. Bon, s'il y a des choses, des imperfections qu'on a découvertes chez nous, bon, ouais, on va chercher à les assumer. Mais nous ne sommes pas des truands. Ça, j'ai pas une tête de truand et je pense qu'il n'y a pas de truand.
Le ministre des Affaires religieuses et du culte, Thierno As Diallo, a fait le déplacement pour apporter son soutien à l'église et au cardinal Jean Zerbo.
Continuer avec les questions financières, franchement, d'abord comme ministre, mais je suis croyant. Je suis croyant et je pense que c'est sale. Cette question, elle ne doit pas se poser. Hein, franchement, c'est un article qui n'a pas sa raison d'être. Et franchement, le ministre de tutelle que je suis est navré. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moments pour raconter ces idioties?
Aucun autre évêque n'a souhaité s'exprimer. La conférence épiscopale a publié tard dans la soirée un communiqué laconique et n'apportant aucune réponse concrète, notamment à qui appartient cet argent et où se trouve-t-il désormais.
Le Mali, où plusieurs soldats français ont été blessés, dont un grièvement jeudi dans une attaque au mortier contre le camp de l'ONU à Tombouctou, dans le nord du pays. L'actualité, c'est aussi au Niger la découverte de 44 migrants morts dans le désert, dans la région d'Agadez. Ils se dirigeaient vers la Libye. D'autre part, 6 soldats nigériens ont été tués mercredi dans une attaque terroriste, selon les autorités. Attaque de la ville d'Abala, environ 200 km au nord de Niamey. Suite d'une semaine d'actualité, vous voulez réagir à cet effort de transparence dans deux pays d'Afrique différents, le Sud-Soudan et le Mali?
Oui, effectivement, dans le cas du Mali, bon, j'apprends que ce sont des journaux d'investigation maliens, donc je pense que c'est très important qu'il y ait justement des Maliens, des Africains en général, qui fassent ce type d'enquête. C'est très important parce que ça fait avancer la démocratie et ça met surtout les responsables politiques, religieux ou autres devant leur responsabilité. Donc il serait important qu'on sache effectivement à quoi correspondent ces sommes d'argent. Et dans le cas du Soudan du Sud, on sait qu'on a un vaste État qui a été créé de manière totalement artificielle pour des intérêts bien particuliers, le pétrole, la captation de l'aide humanitaire qui sert à alimenter le conflit. Donc là, on peut s'interroger aussi sur la ramification des systèmes financiers dans les pays voisins, le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie, qui sont effectivement des acteurs premiers dans la résolution du conflit. Et puis aussi, on peut s'interroger sur l'impact que ça a sur l'opinion, entre guillemets, internationale, qui est régulièrement sollicitée par rapport aux crises humanitaires, notamment la famine que connaît ce pays, pour lequel on réclame justement des levées de fonds de plusieurs millions. Donc c'est, je crois, une problématique qui devrait être traitée avec énormément d'efforts.
Abzad Boukhari Yabara, revenons à cette idée de panafricanisme. Un auditeur nous écrit, c'est Awalou Mohamed à Banjoun, et il nous dit, je crois que c'est possible l'unité africaine. Lui, il fait tout de suite l'assimilation entre panafricanisme et unité politique. Il n'y a pas que ça dans cette notion de panafricanisme.
Non, il n'y a pas que ça. Disons que le panafricanisme existe déjà à travers les arts, la culture, la gastronomie. Oui. Il y a déjà une culture panafricaniste qui existe. Ce qui est posé après, c'est la manière dont cette culture peut donner ensuite naissance à une idéologie politique qui serait exprimée ou en tout cas qui serait présentée au choix de la population. Donc c'est une question fondamentalement démocratique. Aujourd'hui, sur le continent africain, il y a très peu de partis politiques qui se revendiquent du panafricanisme. La Ligue panafricaine Umoja, par exemple, on est loin d'entre eux. Mais on a très peu finalement de structures qui mettent en avant cette notion d'unité politique. Et quand Kwame Nkrumah, dans la constitution du Ghana, explique que le Ghana est prêt à renoncer à sa souveraineté et à faire l'unité avec tout autre pays qui voudra en faire de même, je pense qu'il a absolument compris qu'il est important que on ouvre les imaginaires et que tout ce qui est lié à la production culturelle, à la production des imaginaires, soit ancré justement dans des projets politiques qui sont aussi des projets économiques. On a besoin d'un Airbus africain, d'un Erasmus africain, mais réellement africain, et pas de copier-coller de l'Union européenne qui a elle-même ses problèmes ou des États-Unis d'Amérique. Donc il faut qu'il y ait cette pensée politique africaine qui se mette en place. Si on a déjà tous les instruments culturels, linguistiques, sociaux qui sont là, il faut maintenant les assembler politiquement parlant et faire en sorte que la population soit en mesure de comprendre quel est son intérêt dans ce projet. Donc faire en sorte que les questions de panafricanisme, un peu comme les questions d'Europe sont au sujet de chaque élection en France, aussi bien au plus bas niveau qu'au plus haut niveau, que ces questions de panafricanisme puissent être débattues justement dans les compétitions électorales politiques.
Sept jours en Afrique.
Hamzat Boukhari Yabara, direction le Maroc. Maintenant, le nord du pays connaît depuis plusieurs jours un mouvement de contestation sociale dans la ville d'Al-Hoceima en particulier. Les manifestants réclament du travail, la fin de la corruption et la libération de leurs camarades incarcérés. Reportage de Sarah Doublier, mercredi.
Selon Saad, étudiant en langue anglaise, la mobilisation n'est pas prête de s'arrêter.
D'après ce que nous avons vu depuis le début du Ramadan, je pense que les gens vont continuer à protester aussi énergiquement qu'ils le font maintenant. Le premier jour, il n'y avait pas autant de monde, ça augmente chaque jour. Les protestations ne vont pas s'arrêter à moins qu'ils acceptent nos demandes.
La détermination des protestataires semble inébranlable, comme le montre ce quadragénaire, agent de la fonction publique à Al-Hoceima.
On va sortir tous les soirs jusqu'à la libération des détenus politiques. On va rester indéfiniment, on va rester toute notre vie jusqu'à la libération de nos détenus politiques. Parce que c'est un combat légal, c'est un combat social, c'est un combat qu'on va lutter toute notre vie.
Si le rassemblement d'une moindre intensité a été écourté par une pluie battante, le rendez-vous est donné une nouvelle fois ce jeudi, si les militants arrêtés n'ont pas été libérés.
Et les manifestations ont effectivement continué jeudi. Terminons avec un mariage, ou plutôt avec une question que pose le mariage de Seloud Alain Diallo, le chef de file de l'opposition en Guinée. Mariage avec une deuxième femme, cette union a une nouvelle fois posé la question de la polygamie à Conakry, Coralie Pierret.
Contre la polygamie à 10 000%. À cause de la jalousie familiale, aucune femme ne veut voir les enfants de l'autre femme avancer.
Je ne suis pas contre, je ne suis pas aussi pour, je n'encourage pas parce que je sais que ça crée assez de conflits dans les foyers, surtout pour les héritages.
Pour moi, il faut plutôt légaliser les relations entre l'homme et plusieurs femmes.
Dans les rues de Conakry, sur les radios ou dans les journaux, les avis sont partagés. Selon l'article 315 du Code civil en vigueur, la polygamie est interdite, comme l'indique le juriste Seydou Doumbouya.
C'est une situation qui est très, très récurrente en Guinée, bien que prohibée par le corps civil. L'an passé, il y a un projet même du corps civil qui a été déposé à l'Assemblée. Le projet, il reste encore projet. Tant qu'il n'est pas encore adopté, on ne peut rien affirmer. Tout peut changer à la dernière seconde sur la polygamie.
Faut-il réajuster la loi en fonction de la norme sociale ? Ce débat est superficiel, répond le sociologue Bano Bari.
Si on ne règle pas la question de l'accès aux ressources équitables entre les hommes et les femmes, on va fabriquer des lois. En réalité, ça va dormir dans un tiroir. Les hommes occupent tous les postes lucratifs. Vous ne pouvez pas donner tout l'argent aux hommes et après vouloir qu'il n'y ait pas de polygamie. C'est pas vrai.
Selon l'Institut national de la statistique, 48% des mariages guinéens étaient polygames en 2012.
Quel regard l'historien porte-t-il sur cette question de la polygamie aujourd'hui en Afrique ? Il n'y a pas qu'en Afrique que la polygamie existe, il faut le préciser, Hamzat Boukhari Yabara.
Il y a la dimension de la pratique sociale, des pratiques sociales et des répartitions de pouvoir économique, comme c'était souligné dans le reportage. Je crois que là, dans le cas précis et particulier de Seloud Alain Diallo, on a quand même un haut responsable politique qui est censé respecter et connaître la loi. Donc le fait qu'il ne respecte pas une mesure qui certes est contournée par une grande partie de la population, ne soit pas en mesure de le faire lui-même, montre bien que cette loi, qui fait partie de la constitution guinéenne, pose un certain nombre de problèmes et qu'on a un dirigeant qui aspire aux plus hautes fonctions de l'État, qui n'est pas capable de mettre sa vie privée en conformité avec la constitution. Donc il faut qu'il y ait vraiment un ajustement de ces pratiques sociales par rapport à la loi pour que les choses soient un peu mieux régularisées.
Alors terminons avec les hommes qui ont porté sur le plan politique cette question du panafricanisme. Vous avez cité déjà Kwame Nkrumah, le père du Ghana moderne. Il faudrait aussi rappeler qu'il y a eu d'autres grands chefs d'État, grands parce qu'ils ont porté le combat que vous étudiez, Thomas Sankara par exemple.
Oui, Thomas Sankara au Burkina Faso, Julius Nyerere
président
également.
Entre 1983 et 1987,
effectivement, Julius Nyerere au niveau de la Tanzanie. Donc tout ça, ce sont des dirigeants qui ont tenté de construire dans leur pays une expérience nouvelles, différentes et surtout autonomes et autosuffisantes. Donc je crois que cette notion de développement endogène, elle est au cœur justement de la réflexion sur le panafricanisme et elle explique pourquoi ce mouvement suscite autant d'intérêt, autant de recherches et surtout autant d'espoir. C'est comment se réapproprier notre identité africaine, comment se réapproprier également les ressources matérielles et immatérielles qui vont avec cette identité africaine et comment être capable de parler au reste du monde de manière moins désordonnée, de manière moins désorganisée. Donc comment constituer un véritable front uni. Et à ce niveau-là, tous les États du continent africain, on a évoqué le cas du Maroc, ont leur place dedans, à condition qu'ils soient en mesure de régler aussi leurs propres problèmes internes liés à la question berbère, amazigh ou autre. Et donc aussi à des questions de répartition du pouvoir en interne par rapport aux différentes communautés. Donc le panafricanisme n'est pas l'uniformisation de l'Afrique, absolument pas. C'est la compréhension de sa diversité culturelle, sociale et politique et la capacité à en faire un tout cohérent et suffisamment crédible.
Merci Hamzat Boukhari Yabara. Il faut lire votre livre qui s'intitule Africa Unite, une histoire du panafricanisme, un livre édité aux éditions La Découverte. Merci.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous parlerons des animaux dans l'histoire avec notre invité, un spécialiste de ce thème, Éric Baraté. Idées demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.